carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Bonjour, au micro Anne Muratori-Philippe pour ce nouveau Carrefour des Arts. Je reçois aujourd'hui Monsieur Pierre Arizzoli-Clémentel, directeur général de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, à l'occasion de l'exposition présentée dans les salles du château jusqu'au 27 juin et consacrée aux fastes de cour et cérémonies royales, le costume de cour en Europe de 1650 à 1800. Avec plus de 200 œuvres rassemblées, costumes, joyaux, accessoires, tableaux, gravures et documents, émanant des plus grandes collections royales et impériales d'Europe, cette exposition est le troisième thème sur la vie de cour mise en scène à Versailles après les tables royales en 1994 et quand Versailles était meublé d'argent en 2007-2008. Monsieur Arizzoli-Clémentel, bonjour et bienvenue à Canal Académie.
Bonjour.
Je rappelle qu'avant de présider aux destinées de Versailles, vous avez débuté par un séjour d'initiation de 2 ans en Italie comme pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Et puis vous avez été successivement conservateur en chef du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon, puis du Musée des Arts Décoratifs de Paris jusqu'en 1997, date à laquelle vous avez rejoint Versailles. Cette exposition, dont vous êtes le commissaire général, a pour adjoint Madame Pascale Gorguet-Ballesteros, conservateur en chef du patrimoine à Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, est en quelque sorte votre cadeau d'adieu au château de Versailles. Mais c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur depuis fort longtemps. Pourquoi a-t-il été aussi difficile et avez-vous mis tant de temps pour le réaliser ?
Écoutez, ça c'est une question intéressante et qui peut intéresser un public plus large. Comment s'imagine et se cristallise une exposition et comment une idée devient une réalité? Très souvent, ces projets entre guillemets scientifiques qui doivent aboutir à une avancée des connaissances demandent beaucoup de temps de préparation. Ça peut se comprendre. Mais dans le cas du costume de cour, qui est une exposition ambitieuse, en tout cas qui veut être ambitieuse, il y a en plus de la préparation scientifique, c'est-à-dire de la liste idéale des objets ou des costumes qu'on voulait présenter, la quête s'est complétée d'un parcours un peu initiatique à travers ces collections anciennement royales ou royales, qui sont celles qui existent encore de nos jours, et surtout qui ont donc demandé un accord préalable des prêteurs, ce qui était le plus difficile à obtenir, car en général ces collections ne sortent jamais de leurs réserves. Et c'est peut-être pour ça que le public voit dans cette exposition une chose unique, c'est-à-dire un rassemblement de ce qu'il y a de plus beau, de mieux conservé parmi ces costumes qui ont montré une telle influence de la France.
Mais alors, comment expliquez-vous tous ces costumes qui viennent de l'étranger ? Nous n'avions rien en France ?
Alors justement, c'est un peu le paradoxe de cette exposition, mais je pense que c'était aussi le paradoxe de l'exposition Table Royale et encore plus du mobilier d'argent. Ce sont des choses que les Français n'ont pas bien conservées par l'histoire, par les habitudes, les usages et aussi à cause de la Révolution qui a beaucoup détruit à la suite de cela. Donc dans le domaine du costume qui est peut-être le plus éphémère, le plus fragile, le plus délicat, le plus évocateur aussi des usages de la cour, c'était particulièrement sensible. Il n'y a rien de conservé, aucun vêtement de Louis XIV, aucun mais rien de Louis XV, rien non plus de Louis XVI, mais même pas une demi-chemise, et de Marie-Antoinette, une chemise qu'elle aurait portée à la conciergerie, un soulier qu'elle aurait perdu en montant à l'échafaud. Ça relève plus de la légende, si vous voulez, que de la vérité. Et dans l'exposition, on a une robe qui est attribuée à Rose Bertin et qui aurait été portée par elle, ce qui est peut-être possible, mais là encore, on n'en est pas tout à fait sûr. Donc, il ne reste quasiment rien. Et donc, l'idée, c'était d'évoquer à travers ces prêts étrangers, d'abord, le fil rouge de l'exposition, c'est l'influence de la France. Donc, évoquer à travers ce qui existe dans d'autres collections qui ont été plus précautionneuses que nous, ou d'autres monarchies, ou d'autres gouvernements, et d'évoquer justement ce vêtement de cour qui a été une invention française, en fait.
Mais alors, comment expliquez-vous cette volonté de préservation des cours étrangères ? Est-ce que c'est le fait des cours du Nord ? Puisqu'apparemment, plupart des objets viennent du Nord.
Eh bien, c'est surtout l'effet, je pense que c'est une tradition plus de l'Europe du Nord. Et je pense que c'est aussi dû au fait que ces costumes que vous voyez dans l'exposition ont été conservés non pas comme des habits qui témoignent d'une époque ou d'une mode ou d'une manière de s'habiller, mais je pense qu'ils ont été conservés parce qu'ils appartenaient au patrimoine de chaque nation et que chaque costume qui évoquait un événement particulier était lié à l'histoire nationale en quelque sorte. Donc ce sont des reliques de leur histoire et eux ont gardé ces reliques, même dès l'origine. On sait par exemple que pour les royaumes un peu plus lointains comme ou des empires un peu plus lointains comme la Russie, Catherine II, on a presque tout son vestiaire. Pierre Ier, on a tout gardé, ou quasi. Donc on se dit que ce sont des pays qui ont eu des révolutions, mais qui ont été plus précautionneux que nous. Et je pense que c'est aussi lié à cette histoire de symbole de l'histoire et que les personnages parlent à travers ce qu'ils ont porté en certaines occasions. Ce n'était pas l'usage en France, puisqu'on avait un usage terrible de la réforme, c'est-à-dire entre guillemets la réforme, c'est-à-dire chaque année, la reine ou le roi ou les services de la garde-robe remettaient à la dame d'honneur, à la dame d'atour et au premier gentilhomme les effets qui n'étaient plus portés. Et donc on réformait, c'est-à-dire qu'on revendait, on transformait, on donnait. Donc on ne gardait rien. Ce n'était pas considéré, une fois que c'était porté, c'était fini. On avait un côté, c'est vraiment le côté éphémère. Et puis, comme je vous l'ai dit, la Révolution, ce qui a été conservé, oui, qui a pu passer à travers ces usages quand même assez drastiques, ont été détruits, notamment, par exemple, tous les manteaux du couronnement qui étaient conservés à Saint-Denis. Le roi le portait une fois dans sa vie, donc le jour du couronnement à Reims. Et puis après, on le mettait en réserve dans la sacristie de la basilique où les corps des rois reposaient. Eh bien, ça a été dépecé. Il n'y a aucun manteau royal conservé en France, ni de Louis XIV, ni de Louis XV, ni de Louis XVI. Ils existaient à la Révolution, ils étaient conservés. Oui. Peut-être pas très bien, mais en tous les cas, ils existaient. Et tout ça a été coupé en morceaux, donc saccagé. Parce que ça représentait aussi un régime qu'on détestait à l'époque et qu'il fallait vraiment supprimer.
Oui, il fallait abattre la royauté.
Ne plus voir, oui. Comme on a passé des mois et quasiment des années à enlever de Versailles, du décor de Versailles, des lys. On n'a pas détruit les décors qui étaient considérés comme des trésors de l'art, de grands artistes, mais on a enlevé tous les symboles. Les couronnes, les lys, on a passé des années à enlever tous ces symboles et ça a coûté très cher parce qu'après, il a fallu les restituer en partie.
Tout à fait.
Mais moins bien, c'est ça le problème.
Alors peut-on dire que Louis XIV a créé la mode ?
On ne peut pas dire qu'il ait créé la mode, parce que la mode préexistait à cette image de Paris où il y a toujours eu une espèce de creuset où a été inventée la manière d'être élégant, de porter un vêtement. Ce qu'il a vraiment inventé, c'est le costume de cour, c'est-à-dire le costume du souverain. Il a mis à la mode, dans un certain sens, le costume entre guillemets trois pièces, c'est-à-dire culotte, gilet, veste, et il en a fait, par la manière dont il les a portés et qu'il a demandé des couleurs particulières et aussi le fait qu'il revêtait tout cela de joyaux, il en a fait une espèce d'image du monarque que tous les cours ont voulu copier. Et ce qu'on montre dans l'exposition, c'est justement, ce sont des costumes qui ont un reflet de cette cour de Versailles qui a vraiment été un modèle en Europe. Vraiment, ça, il a réussi cette action de publicité, entre guillemets, de se créer une image du monarque qui était la seule envisageable, en fait. Et quand il est paru dans des spectacles ou dans des fêtes ou à l'occasion de grandes manifestations, il fascinait par l'éclat qui produisait, qui émanait de sa personne. L'idée du roi soleil, c'est pas totalement gratuit, ça. Et même jusqu'à la fin, dernier quasiment jour de sa vie, quand il est paru sur l'estrade de la Galerie des Glaces avec le trône dressé particulièrement pour l'ambassade de Perse, il avait été quasiment à quelques semaines de sa mort, et il est arrivé avec cet habit de velours noir entièrement rebrodé de tous les diamants de la couronne. Oui. Donc Saint-Simon en parle dans ses mémoires, le roi écrasé, coupé en deux, mais éblouissant. Donc c'était vraiment une chose qui a frappé les foules, et tous les ambassadeurs qui sont venus et qui ont reporté cette tradition ont été fascinés.
Est-ce qu'il n'y avait pas une raison politique à ce grand décorum qu'a voulu Louis XIV?
Ah, certainement, parce que lui-même s'était comparé au soleil, donc cette espèce d'emblème extraordinaire, Apollon, etc. Mais je pense qu'il voulait imposer à l'Europe le fait qu'il était le plus grand souverain, le plus grand des souverains de l'Europe, la référence absolue. Quand il a installé son petit-fils en Espagne, ça faisait participer de cette image, les guerres vers les Pays-Bas, tout ça, c'est un échiquier et petit à petit qui montre que c'est le souverain le plus important. Et donc, le fait qu'il s'habille d'une certaine manière avait une influence, évidemment, sur les cours qui essayaient de l'imiter et qui étaient un peu sous son aura, son influence.
Alors, vous évoquez tout à l'heure les couleurs sous Louis XIV. Est-ce qu'il y avait un code des couleurs à la cour?
Non, il ne peut pas dire qu'il y avait un code de couleurs. Simplement, ce qu'il faut se souvenir, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que la cour, la vie à la cour était extrêmement multicolores, tout était très coloré. Les meubles, les marqueteries des meubles que vous voyez maintenant un peu passer dans les jaunes, bruns, etc. Tout ça était jaune, vert, rouge. Les marqueteries étaient très violentes, si vous voulez. Les marqueteries de boule avaient du métal dedans, donc c'est un côté brillant aussi. Les tentures sur les murs étaient extrêmement fortes, rouge, bleu, vert. Ça, on nageait dans la couleur. Et le costume, ça aussi, on a vu dans certains films qui ont été des films historiques, qui ont essayé de recréer la cour de Versailles plus ou moins bien, plus ou moins mal. Quasiment pas de film à montrer ce côté extraordinairement presque cacatoès, presque genre perroquet. Des couleurs très frappantes et très fortes qui étaient assemblées. Il y a des mémoires, je le cite dans le catalogue, enfin, dans les textes, il y a des mémoires qui disent et qui décrivent certains mariages, le mariage de la duchesse de Bourgogne, donc, qui était la mère de Louis XV, où on décrit les couleurs rose, vert, jaune, bleu, rouge de la cour, donc des grands seigneurs de la famille royale. Donc chacun avait une couleur forte, ce qui permettait, je crois, aussi de servir de fond à ces fameux joyaux. Et ça, c'est une des révélations de l'exposition, c'est de montrer à côté des costumes, qu'on montre habituellement tels qu'ils sont, les joyaux qui étaient portés avec ces costumes, qu'on a absolument perdu l'habitude de voir, qui étaient assemblés et qui rajoutaient de l'éclat et de la beauté.
D'ailleurs, on n'imaginait pas qu'il y en ait autant sur un habit.
Il y en avait
des
cascades. Avec
oui.
Ça. Et il y a quelques exemples de ça dans l'exposition qui sont particulièrement frappants. L'habit du prince de Tours et Taxi avec ses brandebourgs de diamants, ou les grandes épaulettes de diamants qui servaient à tenir les cordons, les boutons de pierre de couleur. Alors, il y a dans l'exposition et puis dans l'histoire, dans les lieux de conservation, un exemple particulier de cet extraordinaire amour des couleurs, c'est à Dresde qu'on le trouve. L'électeur de Saxe, qui était une puissance, en tous les cas, s'il n'était pas une puissance, il aimait la resplendir. On a gardé les parures des électeurs de Saxe du XVIIIe siècle qui sont basées sur des couleurs. Jaune pour les topazes, bleu pour les saphirs, blanc pour les diamants, rouge pour les rubis. Donc la parure rouge, la parure verte, oui. La parure bleue. Tout ça, c'est codifié dans une certaine mesure. On peut parler de code, là, oui. Mais ce n'est pas inscrit sur des tables de marbre. Et le costume de cour est quand même à côté de la mode, parce que c'est une chose qui est répétitive et qui ne peut pas tellement bouger. Si ce n'est qu'à un moment, il y a une petite fêlure dans tout ça. C'est évidemment le goût de la mode, véritablement de la mode, de Marie-Antoinette, qui est la seule reine qui impose une image personnelle et qui casse un tout petit peu, elle essaye en tous les cas, d'influencer un petit peu ce costume très rigide, qui venait presque, si vous voyez certaines robes, qui venaient presque des costumes d'enfants, donc ce côté presque espagnol, et très rigide. Il ne faut jamais oublier que la mère de Louis XIV était espagnole et que son épouse était espagnole. Donc l'étiquette espagnole avait un pouvoir très important et une influence très très forte.
Est-ce que Louis XV a compris l'idée de Louis XIV de gérer cette cour par le biais du décorum ? Est-ce que Louis XV l'a fait aussi ?
Alors Louis XV, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là, c'est vraiment quelqu'un qui a suivi l'exemple. Il n'a pas changé tant que ça. Hein.
Oui, il disait « je ne veux pas démolir ce qu'ont fait mes ancêtres ».
Oui, et donc il y avait peut-être que ça lui pesait, mais il vivait dans cette espèce d'esprit de représentation. La vie a été très lassante, c'était une espèce de représentation permanente. Le matin, les conseils, l'après-midi, la chasse, la messe au milieu, les placets, le moment où on passait dans la foule. Il a toujours fait ce rôle, même si c'était peut-être fait avec moins d'enthousiasme et moins de vigueur que Louis XIV, qui a vraiment, c'est le seul des rois qui a vraiment vécu en public. Ça, c'est sûr, jusqu'à sa mort.
En permanence, toute la journée.
Il est mort en public. Il a passé sa vie en public. Les souverains du XVIIIe, c'est-à-dire après Louis XIV, n'ont plus aimé tellement ça. Ils subissaient ça. D'où les petits appartements, d'où Trianon, d'où Bellevue, d'où, etc. Les autres résidences. Mais il y avait quand même une grande partie de représentation. Et il y a quand même des mémorialistes qui rappellent aussi qu'il avait l'air de la plus grande majesté quand il apparaissait. D'abord, il était très grand, Louis XV.
Il était beau.
Beau, c'était le plus bel homme de France, disait-on. Et puis surtout, on lui avait appris à paraître. Il n'aimait pas danser du tout, contrairement à son aïeul, mais il savait se tenir en public. Et ça, Marie-Antoinette, je pense aussi, a su, parce qu'elle a eu cette éducation des princesses typiques, la danse, la manière de se... Et elle avait ce fameux pas glissé qui, sur les parquets de Versailles, était fort utile, parce que comme ça, on ne tombait pas. Ouais. Et surtout, on n'avait pas l'air non plus d'avoir un pas saccadé. On avançait majestueusement. Et ça, elle savait le faire mieux que personne, paraît-il.
Alors, il y a des instants dans la vie quotidienne d'un roi et d'une reine. Le deuil, par exemple. Alors, il y a là une codification du deuil à la cour.
Oui, absolument. Et ça, on ne peut pas l'évoquer dans l'exposition parce qu'il ne reste aucun habit de deuil nulle part. peut-être que c'était considéré comme trop simple. L'habit des rois de France, le deuil était le violet. Ça, on le sait. Et on voit même dans les descriptions des mémorialistes que même les jours de chasse, il y avait un habit de genre violet, pour, même avec des bottes de chasse qu'on gardait. Et ce que je dis dans un des textes de l'exposition, c'est qu'en réalité, il y avait tellement de deuil et tellement d'occasions de prendre le deuil à la cour, puisqu'il y avait tous les parentés, tous les rois, toutes les princesses avec un certain rang, le nombre de jours, ça c'était très codifié. Et à mon avis, le roi était quasiment tout le temps en deuil. Il y avait toujours une princesse ou quelqu'un qui mourait, et on prenait le deuil, et pour longtemps. 6 semaines, hein, c'était très solennel. Alors quand mourait le roi de France, alors c'était une année entière. Et les reines aussi, donc il y avait un côté permanent, il y avait quelqu'un qui devait être préposé à ça dans l'étiquette et qui veillait à la... Et on discutait, d'ailleurs Louis XIV, on voit dans les mémoires aussi, Saint-Simon le rapporte, discutait sur la longueur du deuil nécessaire à oui. certains princes, selon le rang, selon le titre, selon la parenté surtout. Et ça, c'était capital. Alors dans l'exposition, on n'en voit pas parce qu'il n'y en a pas de conservé. Mais donc le deuil des rois, c'était en violet, pas en noir.
Et la reine ?
La reine... On ne sait pas vraiment. Ça. Elle paraissait en deuil. On voit, par exemple, il y a des documents dans l'exposition qui rappellent que les grands habits de deuil étaient en noir pour les princesses. Par exemple, la comtesse d'Artois, qui est la belle-fille du roi, donc, qui a épousé un des frères de Louis XVI, elle commande un grand habit d'œil noir. Tout était noir. Les fichus, les bonnets, les mantelets, les grandes jupes, les traînes. Donc il y a certainement, le côté noir existe quand même si ce n'est pas ce qui saute le plus à l'œil pour le roi, puisqu'il s'agissait d'une autre couleur. Et puis il y avait les demi-deuils en blanc. Par exemple, pour les présentations à la cour, si une dame avait perdu un parent, l'habit de présentation était noir et or, traditionnellement. Mais il y avait quantité d'exceptions à cause justement de ces histoires de deuil ou de demi-deuil. Et donc on pouvait paraître ou en blanc ou en gris et blanc, mais ou même quelquefois totalement en blanc, ce qui paraît étonnant parce que on a dit que les reines prenaient le deuil en blanc, mais on n'en est pas tout à fait sûr.
La reine d'Espagne peut-être.
Alors oui, non, ça c'est peut-être actuel ça, mais maintenant non, elles vont voir le pape.
Le pape.
En audience en blanc, les reines catholiques, oui. Et ça c'est un peu un reste de tradition oui. Ancienne. Mais ça je pense que on n'a pas vraiment de règles précises. Par contre, on a des règles très précises pour la présentation à la cour.
Alors justement, il y a une gravure dans l'exposition qui montre une robe de présentation à la cour. Et j'aimerais que vous évoquiez une présentation à la cour. On pense tous à Madame de Pompadour, bien sûr.
Alors, moi, je penserais plutôt à une autre personne forte importante qui a été présentée. Bon, les exceptions, c'était les favorites qui n'auraient pas dû être présentées, mais qui étaient titrées, qui, de cette manière, entraient dans la vie de la cour. Ça, c'est Madame de Pompadour, Madame du Barry, qui sont les deux scandales un peu du XVIIIe siècle. Mais il y a une personne qu'on pourrait citer qui raconte ça dans ses mémoires, cette présentation qui était une épreuve, c'est Madame de Staël. Donc, elle était née Germaine Necker, elle ne pouvait pas être présentée, donc elle était la fille d'un bourgeois de Genève. Elle épouse l'ambassadeur de Suède de l'époque, le baron de Staël. Et à ce titre d'ambassadrice de Suède, elle est autorisée à être présentée à Marie-Antoinette. Et elle revêt une grande robe avec une traîne, c'est le problème de ses robes. Donc, le grand habit, c'était un grand panier, une jupe, la traîne et le corsage en pointe qui s'appelait un cor. Donc elle revêt comme tout le monde cette robe et elle raconte que c'est un supplice épouvantable parce que c'était très formel. Hein. Il s'agissait de faire, dans le salon où la reine était présente, faire 3 révérences jusqu'à la personne royale, s'incliner et avoir l'air de baiser le bas de la robe, la reine vous relevant et ne vous laissant pas aller jusqu'à terre, et après dire un demi-mot. Et puis après, on se retirait sans tourner le dos. Et là, il fallait faire 3 révérences de nouveau vers la porte sans avoir d'incident. Et Madame de Staël raconte qu'elle tombe parce qu'elle se prend les pieds dans sa traîne. Et par une chose extraordinaire, Marie-Antoinette la rattrape. Donc ça aussi, c'est une grâce particulière qui n'était pas toujours donnée. C'était, au fond, la cour, c'était le lieu du paraître. Et on était assez cruel. Si quelqu'un tombait, c'était assez amusant de voir que quelqu'un n'avait pas réussi son épreuve. Parce que c'était une épreuve. Toutes les dames qui l'ont fait, même Madame du Barry, même, surtout encore plus peut-être, Madame de Pompadour, ont subi ça comme une terrible épreuve. Parce qu'il s'agissait de faire une présentation d'abord au roi, ensuite à la reine et après à toute la famille. Donc,
au dauphin,
à la dauphine, à mesdames, enfin, ça dépendait de l'époque, mais il pouvait y avoir beaucoup de personnes. Oui. Et chaque fois, on allait faire audience et être reçu et on faisait des révérences. Et il y avait un petit mot qu'on guettait et que les mémorialistes répétaient si c'était pour essayer d'être aimable ou désagréable, parce que ça pouvait exister. En tous les cas, le costume était très codifié pour les femmes. Par contre, pour les hommes, ça se passait assez curieusement à la chasse. Et là, à partir du moment où on accédait à pouvoir assister à la chasse, à ce droit, à ce privilège, on pouvait monter dans les carrosses du roi. Et ça, c'était considéré aussi comme les honneurs. Oui. Et donc, on pouvait assister, on était présenté d'office. Et il y a une fameuse liste dans l'exposition qui note les gens présentés, qui demandent d'être présentés. Il y a agréé, refusé, refusé, agréé. On n'était pas toujours agréé. Non, il fallait pouvoir... C'était très codifié. Avant, il fallait prouver qu'on appartenait à telle famille, etc. Donc, il y avait... Un problème de rang aussi, bien sûr.
Alors nous allons faire une interruption et nous reprendrons sur un sujet différent, une autre facette de cette exposition magnifique.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Je suis en compagnie de Monsieur Arizoli Clémentel pour évoquer le deuxième volet de cette magnifique exposition présentée au château de Versailles, Faste de cour et cérémonie royale, le costume de cour en Europe de 1650 à 1800.
C'est ambitieux.
Oui, très ambitieux. Et justement, il y a quelque chose de très surprenant dans cette exposition. Ce sont les vêtements religieux qui d'ailleurs ne viennent pas de France, qui viennent de Cologne et qui évoque le savoir-faire de la France.
Ah ça, je pense que c'est aussi un des intérêts de l'exposition, c'est de montrer que ce rôle de la France, ce fil rouge de l'exposition, c'est dû au métier, aux artisans qui étaient l'excellence même à Paris et en France. Il n'y avait pas de comparaison possible à l'extérieur. C'est pour ça aussi, je pense, que ces costumes qu'on montre dans l'exposition reflètent cette influence extraordinaire de Versailles et de Paris, parce qu'on ne trouvait pas ailleurs cette... Il y avait d'abord l'imposition, d'une certaine manière, de paraître par la cour de France, mais il y avait aussi les métiers qui accompagnaient cela et qui permettaient de réaliser des chefs-d'œuvre qui ont été conservés dans tous les pays, comme, contrairement à la France, mais comme des choses extraordinaires. Et donc, ce dont vous me parliez, c'était évidemment les fastes de l'Église qui font partie des cérémonies royales quotidiennes, quasiment. Ouais. Et pour évoquer cet aspect, on a pensé à montrer le seul exemple existant encore d'un ensemble d'ornements religieux qui ont été créés pour le couronnement d'un empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles VII, qui était un Wittelsbach, donc d'une famille de la Bavière.
Oui.
Et pour ce couronnement, après son élection, son frère Clément Auguste, archevêque de Cologne, commande à Paris un ensemble de 60 pièces.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme, mais c'était des cortèges gigantesques qui permettaient d'officier le fameux jour du couronnement. Et on a la chance de présenter 6 pièces. Elles n'ont jamais été présentées à Paris. Elles ne sont pas présentées non plus à Cologne, par chance pour nous, parce qu'elles sont préservées. Et elles sont datées de 1742. Et elles montrent aussi l'exemple extraordinaire de qualité des brodeurs parisiens. Alors, ce sont probablement les brodeurs du roi qui étaient les meilleurs, parce que Louis XV voulait montrer par cette possibilité qu'il aidait les Wittelsbach contre les Habsbourg. C'est un peu une idée politique, là aussi. Et il permet à ce prince-évêque allemand de faire travailler ses brodeurs assez rapidement, en 3 mois, donc, pour réaliser cet invraisemblable ensemble qui comprend des chapes, des dalmatiques, des chasubles, des mitres, tout un ensemble qui était très très lourd à porter, à peu près 50 kilos par vêtement, par ornement. Donc la chape de l'archevêque pèse à peu près ce poids-là. Et ce sont à la fois les deux couleurs qu'on retrouve, hein, de couleurs, de types de matériaux, l'argent et l'or, puisque le fond est argent, en drap d'argent, c'est un tissu qu'on retrouve souvent dans les costumes de cour, et les broderies sont de fil d'or, avec une telle qualité, tel contenant d'or, qu'elles ne sont pas ternies, si vous remarquez bien.
Oui.
C'était extraordinaire de métier. Donc, il y a en plus un métier qui est à la fois répétitif, mais qui est inventif, parce qu'on voit que la disposition des paillettes est asymétrique. Il y a un côté qui veut donner aussi toujours un scintillement qu'on a essayé d'évoquer dans la présentation et qui était vraiment du grand art, je pense. On appelait ça aussi pour à certains points des broderies en bosse, c'est-à-dire en relief. Sur certaines pièces, vous voyez que c'est presque bosselé, mais pour attirer la lumière aussi et pour donner du corps à ces broderies qui ne peuvent pas être absolument plates. Et on voit certains ornements ou certaines figures, par exemple le pélican qui s'immole pour ses enfants, qui est quasiment en relief, qui vous saute presque à la figure. Et ça, c'était un art extraordinaire. C'était encore plus difficile de broder des choses en relief, parce qu'il fallait pouvoir arriver à broder sur des choses qui n'étaient pas plates. Donc, il y a un côté. C'était des métiers très difficiles, hein, même à l'époque. des dames, ou souvent des dames qui brodaient, ou il y avait aussi des brodeurs célèbres, mais qui étaient on n'avait pas une grande espérance de vie des brodeurs, d'abord pour les yeux et pour les mains, parce que c'était très, très, très fatigant.
Ça devait être très difficile à travailler.
Ah oui, c'était presque en coupant, oui. Donc il y avait vraiment un problème de tenir le coup. Il y a certains brodeurs à Paris qui travaillent encore pour la haute couture, mais pas aussi difficilement. On ne pourrait plus refaire ça. Ce serait impossible. Alors, le fait d'avoir conservé cet ensemble permet d'évoquer cet extraordinaire métier qui était aussi complété par ce qui était créé à Lyon, une manufacture créée par Louis XIV et par Colbert, pour combattre l'influence de l'Italie et pour être les meilleurs dans ce domaine. Et je pense qu'ils ont été les meilleurs au XVIIIe siècle aussi pour les soieries qui accompagnaient, qui faisaient partie de ces vêtements.
Oui, d'ailleurs, les rois européens, je pense à Gustave III de Suède ou à Auguste le Fort,
se fournissaient à Paris.
C'est ça qui est étonnant.
Et veulent des costumes à la française. Oui.
Comment peut-on expliquer qu'ils aient osé ? Parce qu'ils sont quand même, ils devraient faire travailler les métiers de leur pays.
Mais il y avait un tel prestige que rien ne pouvait égaler ça. Je pense que c'était... Si on voulait imiter un peu le roi de France, il fallait... Son costume de mariage, le costume de mariage de Gustave III, est vraiment intéressant parce qu'il montre justement l'influence du goût français. Parce qu'on dit qu'il est quasiment copié sur un costume qu'a porté Louis XV, qui avec des broderies de soleil qui sortent de nuages en mica bleu, enfin des choses extraordinaires, et qui était porté évidemment qu'une fois. C'est pour ça qu'il a été conservé, et qui donne une petite idée du reflet de cette vie de cour qui devait être éblouissante et qui a fasciné tous les gens qui l'ont vue. Alors, essayer de la recréer dans un événement comme l'exposition et puis un catalogue qui restera, je pense que c'est important parce que les gens ont complètement perdu cet effet du vêtement. Maintenant, tout le monde est en noir, en gris. Il n'y a plus ce côté polychrome et brillant. Et essayer de l'évoquer, je pense que ça apporte quelque chose au public. C'est pour ça que je crois que le public est attiré par cet événement.
Alors justement, on parlait de Gustave III, le costume de son mariage, mais il y a le costume de son couronnement qui est différent. Alors, je crois que là, il y a une petite histoire à raconter.
Oui, c'est vrai aussi. C'est parce que ça, ce Gustave III était passionné par la France. Il avait une manie presque de la France. Il est venu deux fois en voyage, ce qui était rare, incognito, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de voyage officiel. Mais il vient sous le titre de comte de Haga, qui est un titre d'une terre qui lui appartenait à côté de Stockholm. Mais il connaît très bien Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis XV vieillissant. Et il va évidemment voir à Paris tous les tailleurs imaginables. Et on sait que pour son couronnement, on lui fait faire un habit moderne, à la française, à la mode, plus à la mode, disons. Et par contre, il ne veut pas cet habit et il fait utiliser des draps d'argent tissés avec ses symboles, très probablement tissés en France, mais en demandant une forme à l'antique qui évoque les dynasties précédentes, car il veut se raccrocher aux dynasties.
Ses ancêtres.
Oui, les ancêtres qui n'étaient pas les siens, parce que les Vasa dont il prétendait descendre, dont il voulait descendre, n'étaient pas ses ancêtres directs. Donc il voulait se rapprocher de cette dynastie qui existait, qui était un peu, pas mythique, mais enfin, historique. Et il fait faire donc en Suède cet habit qui est un juste corps en drap d'argent, rebrodé de dentelle d'argent, qui est merveilleusement préservé, qui est montré aussi, et qui est un peu à l'antique, donc qui évoque les styles précédents. Donc au fond, là, il refuse l'habit plus à la française. Par contre, la reine était en grand habit à la française, là aussi en brocart à fond d'argent et or, et là, elle est vraiment habillée comme une princesse française. Donc il y a un peu le mélange des genres, là.
Alors justement, puisque nous évoquons l'habit de la reine, le panier est-il vraiment d'origine française et a-t-il été repris par toutes les cours ?
C'est d'origine française, c'est inventé, disons, à la fin du règne de Louis XIV et début du règne de Louis XV, et ça reste pendant tout le siècle, si vous voulez. Ça, c'est un peu l'emblème de Paris et de la cour, absolument. C'est l'habit des présentations, donc vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle un habit à la française, qui a vraiment une influence considérable et qui est copié. Et ça, les reines étrangères copient cet habit, absolument. On le voit non seulement dans les costumes qui sont parvenus jusqu'à nous, mais aussi dans les gravures, ou dans les textes des mémorialistes. Ça, c'était un exemple pour les femmes encore plus que pour les hommes. Mais ceci dit, si vous remarquez bien, l'exposition est plutôt, ce qui est rare, une exposition avec des habits masculins. Parce qu'évidemment, les rois étaient plutôt des hommes à l'époque. Il y a des exceptions, comme Élisabeth d'Angleterre, la première, sous la Renaissance, et puis plus tard Catherine II en Russie, mais c'était quand même très exceptionnel qu'une reine ou enfin, qu'une femme arrive à ce rôle qui était plutôt réservé à des hommes. Donc, en fait, c'est assez extraordinaire de voir autant d'habits d'hommes ayant appartenu à des souverains qui puissent être présentés encore maintenant. Mais on a plutôt finalement l'habitude pour le 18e de montrer les habits d'âme ou de femme. C'est pour ça que je pense que c'est émouvant de voir aussi que ce sont les habits qui ont été portés par des personnages historiques et qui existent encore, qui sont des témoins de cette vie très précise et très codifiée.
Justement, pour revenir un petit peu en arrière, vous avez notamment le grand manteau de Georges III. C'est un des rares manteaux de couronnement qu'on puisse voir.
Oui, parce que c'est un des rares conservés. Je vous ai dit que pour la France, elles ont tous été, ouais, tous été détruits. Et en Angleterre, là aussi, vraiment une fibre conservatrice. Et là, on sait que c'est vraiment son manteau avec l'hermine, ce qui est rare aussi, l'hermine ancienne qui est conservée. Un manteau aussi avec une traîne très longue de 5 mètres de long en velours. Une autre couleur pour l'Angleterre, c'est plus le bleu ou le hyacinthe violet, mais c'est le rouge. Et on retrouve les galons et la manière de fourrer ces manteaux d'hermine qui faisait que ces manteaux étaient un peu des supplices à porter et que tous les rois se plaignaient beaucoup de cette cérémonie du couronnement qui était longue, très très longue, qui pouvait durer presque une journée et pendant laquelle on revêtait des habits de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus pesants et de plus en plus chauds aussi. Louis XVI racontait que son couronnement avait été une telle épreuve que il ne voulait pas imaginer, ça ne pouvait pas se reproduire, mais que c'était une chose terrible. Et il y a eu des conséquences à cela, par exemple. Le lendemain, il y avait la cérémonie de l'ordre du Saint-Esprit, et le roi, devenant grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, revêtait l'habit de chevalier grand maître. Et là, de nouveau, manteau, très long manteau en velours, brodé, très lourd, et un peu imité d'ailleurs sur le modèle du manteau du sacre. Et là, Louis XVI décide de ne plus jamais porter ce manteau et de faire un petit costume plus léger, avec une cape plus à la mode dans un sens. Et donc on voit dans l'exposition des grands manteaux de chevalier qui sont extraordinaires, mais qui devaient être d'un pesant exceptionnel et qui devaient être peu agréables à porter. Madame de Sévigné raconte dans une de ses fameuses lettres que certains chevaliers s'étaient accrochés, leur broderie n'arrivait pas à se décrocher de cette espèce d'extraordinaire ensemble de fils et de paillettes et de broderies qui étaient très belle, mais évidemment aussi assez fragile. Les chevaliers devaient se procurer leur manteau. Oui. Le collier seul était donné au chevalier par le roi et repris à sa mort. Mais le chevalier devait, on sait dans les mémoires, qu'il devait s'offrir cet habit qui passait souvent de génération en génération parce que c'était souvent les mêmes familles qui avaient ces habits. Mais il y en a très très peu qui existent du XVIIe et XVIIIe siècle. Il y en a un qu'on aurait voulu avoir, qui est à Cracovie, qui a été offert par Louis XIV à Jean Sobieski. Il existe encore, mais il est trop fragile. Malheureusement, il n'a pas pu voyager. Donc, le choix n'a pas été aussi facile qu'on l'imagine.
Alors, il y a aussi des choses assez étonnantes. On voit, par exemple, une robe de chambre dans cette exposition.
Alors, on a voulu évoquer la journée du roi.
Voilà.
Par justement cette succession d'habits de jour, de soir, de cérémonie, ou même de lever et de coucher, qui était très important à Versailles. Il n'y en a aucun de conservé en France, comme je vous l'ai dit. On sait par les textes des archives que les robes de chambre des rois étaient extrêmement luxueuses. Il y a un texte d'archives qui dit que pour Louis XVI, jeune roi, on commande une robe de chambre en satin blanc rayé d'or avec des bouquets violets brochés. Donc vous voyez la richesse extraordinaire, oui, de cette robe de chambre. Et il la portait au lever. Et ça faisait partie des cérémonies vraiment journalières. Donc on a voulu évoquer, grâce à une robe de chambre qui est conservée au Danemark, d'un roi de Danemark, ce vêtement de jour qui était le début de la journée et qui après qui est changé assez rapidement quand le roi se revêt de son habit de jour normal avec cet habit en trois morceaux, culotte, veste et gilet. Et là, on a évidemment quelques exemples fameux comme celui de Pierre le Grand, cet habit qu'il a dû commander à Paris pendant son séjour de 1717. Et puis, on a aussi une évocation des habits de soirée ou de cérémonie qui sont plus simples que les grands habits de mariage ou de couronnement, et qui sont aussi commandés à Paris par certains personnages comme le roi de Suède, ou même une série d'habits très très considérables et très importants d'un futur tsar qui est le vainqueur de Napoléon, c'est Alexandre Ier. On a un très grand prêt de l'Ermitage, 13 éléments, 13 pièces. Et parmi ces 13 pièces, il y a justement les habits conservés tous aussi là, miraculeusement, mais faits au XVIIIe siècle, puisqu'il devient tsar en 1801. Oui. Mais il se marie en 1793, donc on a les habits de son mariage, les habits et quand il passe, quand il devient majeur à 7 ans, donc on a tout conservé. Et on peut évoquer à la fois la jeunesse d'un prince, sa vie quotidienne, son mariage à travers cet extraordinaire prêt de la Russie.
Était-il inspiré par la France ?
Ah, complètement. Si vous regardez ses habits de son passage de la majorité, ce sont des habits à la française, culotte, veste, gilet, et brodé pareil et fait avec les mêmes tissus.
Je pense que nous allons évoquer aussi un autre thème de cette exposition. Il y a les livrées royales.
Ça, c'est lié aussi à la vie quotidienne du souverain. Et on a voulu montrer dans ces reliefs rares de ces livrées qu'il y avait des couleurs d'abord qui accompagnaient la vie du roi tous les jours. Et pour la cour de France, c'était le bleu et le rouge. Et on a une livrée conservée qui est au musée Galliera et qui est montrée dans l'exposition. Et l'influence qu'elle a eue sur d'autres royautés, d'autres royaumes, comme le royaume de Suède, où il y a le même motif de livrée, mais dans des couleurs différentes, qui étaient les couleurs de Suède, bleu et jaune. Et ça, c'était vraiment la vie quotidienne des palais. Il n'y avait pas seulement le roi qui était important, il y avait tout l'entourage, évidemment. Et on a montré aussi, dans l'exposition, un costume de Suisse, qui est un costume porté, là aussi, qui est la garde qui accompagne le roi. Et il y a un seul, qui date du XVIIIe siècle, qu'on a retrouvé, qui était à Dresde. Celui de la cour de France était bleu et rouge. Et celui qui est conservé est jaune et bleu donc pour la cour de Dresde. Donc ça donne une idée de ces costumes qui sont un peu assez proches de ceux qui sont encore portés à Rome dans la cour pontificale.
Ils sont faits avec des tissus de quelle matière ?
Ah, c'est de la laine, ça. C'est la feutrine, des tissus vraiment assez lourds qu'on ne pouvait pas changer, qui étaient très adaptés aux traditions. Et il faut se rappeler que les costumes n'étaient pas adaptés aux saisons à l'époque. C'est pour ça qu'on sait, par exemple, que Louis XIV se changeait beaucoup dans la journée. Il était souvent probablement en sueur. Donc il changeait 3-4 fois par jour. On lui changeait de chemise. Il ne prenait pas de bain. Donc on le frottait avec un coton et des alcools ou des parfums. Et donc il y avait un changement assez continu parce que c'était des vêtements dans lesquels on avait chaud. Donc il n'y avait pas de vêtements vraiment d'été. Si ce n'est peut-être à la fin du XVIIIe, on va apparaître des taffetas ou des tissus plus légers, mais c'est assez rare.
Alors, il y a dans cette exposition un petit personnage, c'est une poupée de mode.
Alors, les poupées de mode, c'est une tradition très ancienne qui remonte, dit-on, au Moyen-Âge, où on faisait circuler dans les cours européennes des modèles qui étaient mis au point à Paris et qui donnaient l'idée de la mode à Paris, de ce qui se faisait. Et ça, c'est la seule connue qui est présentée dans l'exposition, qui est un petit modèle d'un grand habit. Avec traîne, grand panier, corps ou corset. Et c'est conservé dans un musée anglais. Ils l'ont acheté il y a quelques années d'une collection privée, mais c'est une chose très rare parce que ces modèles étaient véhiculés dans toute l'Europe et servaient de publicité. Et une personne qui s'est beaucoup servie de ces poupées de mode, c'est Rose Bertin. Rose Bertin a vraiment fait sa fortune et sa gloire, d'abord en étant la modiste couturière de Marie-Antoinette, et puis non seulement en travaillant pour la reine, mais en se faisant savoir. Donc en répandant dans toute l'Europe des petites poupées qui étaient une manière pour elle de présenter ses créations les plus avant-gardistes. Et ça, c'était un succès fou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit un vestiaire si important chez les tsarines ou chez les princesses lointaines qu'ils pouvaient commander à Paris des costumes qui étaient à la pointe. Une autre personne dont on parle un petit peu dans l'exposition et qui était une personne qui était... peut-être pas une reine modèle, mais disons une victime de la mode, c'est Marie-Louise de Parme qui devient reine d'Espagne et qui est la reine portraiturée par Goya, qui est donc cette terrible personne qu'on voit presque caricaturale. Le peintre ne lui épargne rien, oui. Mais elle est habillée, si vous le regardez, à la dernière mode de Paris. Et ça, on sait que jusqu'à son départ de Madrid, donc assez tard en 1807, elle continue à commander des valises entières, des coffres entiers de choses commandées exprès pour elle à Lyon ou à Paris par les brodeurs, par l'intermédiaire de, non pas d'ambassadeurs, mais de marchands de mode qui essayaient de lui montrer ce qui se portait à Paris. Donc vous voyez l'influence de Paris qui continue même après la Révolution.
Rose Bertin donc, a fait plus ou moins la mode au temps de Marie-Antoinette, mais est-ce que c'était Marie-Antoinette qui choisissait ses tissus ?
Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais les rois ou les reines ne choisissaient pas vraiment personnellement. C'était fait par les services de l'administration qui montraient ce qu'il y avait le plus à la mode et qui apportaient. Alors, il y avait un choix qui se passait à un certain moment, mais le choix était préétabli. De même pour les tentures murales, les meubles, tout ça, on sait qu'on voulait la dernière mode, on voulait le dernier cri, mais ce n'était pas un choix. La reine n'allait pas voir telle ou telle boutique, ou telle, on faisait un pré-choix. L'administration qui était très, très organisée, oui. Le garde-meuble, la garde-robe. On a gardé, par exemple, pour Marie-Antoinette, ces fameux cahiers d'atours, qui sont ces choses rares. Dans l'exposition, il y a un cahier de ce type-là, mais qui a appartenu à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et qui montre que les habits étaient présentés sur échantillon. Ils étaient déjà faits, donc on choisissait sur le cahier l'habit qu'on allait porter. Donc il y a une espèce d'organisation très très au point, d'un renouvellement permanent, ce qui explique aussi peut-être la disparition en France, parce que ça ne durait pas très longtemps tout ça. Donc les grands habits de Madame Elisabeth, ils sont commandés, vous vous rendez compte, en 1692, dans les 6 derniers mois de la royauté, on voit qu'on commande encore des grands habits en soirée de Lyon. Oui. Pour une personne de la famille très proche, déjà aux Tuileries, donc dans un simulacre de cour fort brinque-ballant.
Tout à fait.
Et on continue cette espèce d'exercice qui va bientôt sombrer.
Et alors, nous arrivons au terme de cette émission. J'aurais aimé savoir si cette mode café Versailles, café Louis XIV, qui a essaimé dans toute l'Europe, a-t-elle changé avant la Révolution ou après la Révolution? Est-ce que c'est la Révolution qui a bouleverser ce rayonnement français?
Je pense que c'est une étape. Le rayonnement français a eu une petite interruption pendant la Révolution à cause des événements, mais a repris très vite sous le Directoire, sous l'Empire. Et la qualité de Paris, capitale de la mode, a commencé avant la Révolution. C'est un petit peu affaibli pendant ces années tragiques et difficiles, et puis a repris. Et elle a été définitivement installée par l'impératrice Eugénie, qui avait eu l'idée de faire appel à un grand couturier. Le premier, c'était plus une dame, mais c'était un monsieur, c'était Frédéric Worth, qui était un Anglais d'origine, oui. Mais qui a fait fortune en faisant les vêtements à la mode de l'impératrice. Donc il y a vraiment c'est une succession, en fait, un petit peu interrompue, mais d'une tradition vraiment française depuis bien avant Louis XIV même, mais qui se cristallise avec l'habit de cour sous Louis XIV, donc qui est le sujet de l'exposition, mais qui est une étape, si vous voulez.
Merci, monsieur Arizzoli-Clémentel. Je rappelle que je vous recevais à l'occasion de cette exposition présentée au château de Versailles, Faste de cour et cérémonie royale, le costume de cour en Europe de 1650 à 1800. Je vous remercie.
À bientôt.